Donc, en introduction, je dirais que le thème de la professionnalisation arrive assez tardivement dans l'enseignement et il a pris des acceptions bien différentes. Raymond Bourdoncle vous l'a rappelé sans doute hier, et c'est ce qu'il faisait dans un article de 2000 où il montrait comment il était, bien sûr, polysémique et à quel point cela était, on pouvait le rapporter à un processus qui portait sur plusieurs objets. Puisque la professionnalisation porte sur l'activité elle-même, sur le groupe exerçant l'activité, sur les savoirs, les personnes et la formation. Donc cette approche plurielle déjà était une mise en cause de l'approche fonctionnaliste de la profession et permettait de relier plus étroitement professionnalisation et situation de travail. Et situation professionnelle au sens général, depuis l'entrée dans le métier jusqu'à l'expertise. De plus, cela permettait une double approche de la professionnalisation par l'individu et par le groupe. Donc, telle qu'elle a été institutionnellement introduite en France dans les années 90, la professionnalisation a correspondu en fait à des projets divers. Et il n'y a pas eu une seule conception de la professionnalisation. Et de la façon dont elle a été traduite ensuite dans la réalité des politiques éducatives et dans la mise en place de dispositifs de formation, ce sont souvent les experts et les formateurs qui ont été porteurs du thème de la professionnalisation, les chercheurs aussi, beaucoup plus que les acteurs qui ont revendiqué de façon assez modérée une professionnalisation. Pour comprendre cet état de fait, il faut remonter un petit peu en arrière. Et cela permet de voir que tant du côté des chercheurs que du côté des décideurs ou du côté des formateurs, le travail enseignant a été l'objet effectivement d'une suspicion. Donc un des postulats qui a imprégné en quelque sorte la notion de professionnalisation en France, du moins, était que les pratiques des enseignants étaient inadaptées. Et cela remonte bien avant le fait qu'on se préoccupe de professionnalisation, puisqu'on peut la trouver déjà dans l'histoire, alors de façon contemporaine, de façon massive dans la presse, où il y a des propos réguliers à propos de l'inefficacité supposée ou avérée du travail des enseignants. Il y a même chez les enseignants eux-mêmes une certaine opacité, voire une difficulté à parler de leur travail. Et il y a également chez les décideurs une vision du travail qui est assez péjorée, du travail des enseignants. Bizarrement, le travail des enseignants apparaît essentiellement sous deux aspects quand il est rendu visible. Il apparaît quand il s'agit d'un travail exemplaire. Là, on est du côté de l'innovation, de l'exception, où il apparaît du côté du dysfonctionnement. On pourrait dire que, si on était dans le domaine industriel, que seule la panne rende visible le travail. C'est quand ça marche pas qu'on voit qu'il y a du travail et que le travail est peut-être autre chose que ce qu'on pense. Donc l'idée d'une inadaptation du travail des enseignants va justifier un certain nombre d'actions dans le domaine de la formation pour y remédier. Le diagnostic est simple. Il y a une formation défaillante qui expliquerait une efficacité insuffisante du travail des enseignants. Et en même temps, de façon paradoxale, la volonté d'amener les enseignants à travailler mieux se fait en même temps sous couvert d'un relatif déni du travail réel des enseignants, alors qu'une réflexion va émerger dans d'autres domaines que celui de l'enseignement, justement sur l'intérêt qu'il y a à prendre en compte le travail réel. Finalement, la question de la professionnalisation ou du travail des enseignants autour du thème des pratiques professionnelles émerge en France à l'occasion de la massification de l'éducation. C'est là, quand on reprend la littérature scientifique, ce sont dans les années 80 essentiellement, qu'apparaissent nombre de textes scientifiques qui à la fois montrent les limites de la démocratisation de l'éducation, l'exigence d'efficacité de l'école et en même temps les difficultés à effectuer, à avoir un travail qui corresponde à cette efficacité de la part des enseignants. Alors deux réformes jalonnent cette préoccupation. D'abord la mise en place de la formation continue dans le second degré dans les années 80, début des années 80, puis la création des IUFM dans les années 90. Auparavant, on pensait qu'une formation universitaire, une bonne formation universitaire suffisait à assurer une qualité de l'enseignement. Du côté syndical, si on regarde la presse syndicale, jusqu'à une période très récente, pour le second degré, il n'est question que des conditions de travail et fort peu du travail lui-même. Les pratiques enseignantes font peu l'objet de débats au sein du syndicat majoritaire, particulièrement pour le second degré, le SNES. Et en fait, il y a une espèce de convergence objective entre les approches institutionnelles et syndicales qui ont recouvert le travail par le statut. La question en débat était bien plus la défense du statut, des conditions de travail, plutôt que de débattre du travail lui-même. Le travail étant renvoyé à la zone de l'intimité, de l'autonomie pédagogique, dans laquelle ni l'institution ni les syndicats, pendant longtemps, n'ont estimé avoir de réflexion à avoir ou à prendre de décisions les concernant. Donc, en effet, l'entrée par le travail, d'une certaine façon, peut subvertir les statuts, puisque à statut différent ne correspond pas à une activité différente. De plus, au sein d'un syndicat comme le SNES, l'accord était plus facile à trouver concernant la défense du statut que sur des pratiques pédagogiques communes. Alors ça, c'est pour la période récente. Cependant, on est obligé de faire un retour en arrière un peu plus important pour comprendre d'où vient le fait que le travail des enseignants soit le grand oublié de la réflexion, particulièrement de la sociologie de l'éducation. On peut le rapporter déjà à la prédominance d'une conception civique largement partagée qui a contribué à laisser le réel du travail dans l'ombre. Il y a eu un accord pendant longtemps sur le fait que ce qui était important, c'était l'égale condition et pratique de chaque enseignant sur tout le territoire. Cela constituait l'idéal civique et il ne faut pas oublier que à la blouse de l'élève correspondait la blouse de l'enseignant. Un enseignant égale un enseignant, ils sont interchangeables de la même façon que l'élève laisse à la porte de l'école ses particularités, de la même façon l'enseignant doit laisser sa singularité à la porte de l'école. Mais dans le même temps, la singularité de l'action est écartée de cette logique. Cependant, la décentralisation, la massification vont remettre en cause cette conception civique. D'autant plus qu'une autre logique émerge, qui est plus de, on pourrait dire, une logique industrielle, si on se réfère au modèle de Boltanski, une logique de l'efficacité qui se traduit par le développement d'une standardisation qui est référée à des standards qui plus est qui sont définis au plan international souvent, mais qui finalement aboutissent au même résultat quant au déni de la singularité de l'action. Par ailleurs, dans la littérature courante et scientifique sur le travail enseignant, le point de vue critique est parfois dénonciatoire et dominant. Et les témoignages des enseignants sont plus souvent tirés du côté de la plainte. C'est donc ce qui ne marche pas qui est mis en avant d'abord concernant le travail des enseignants et la question de la professionnalisation va être chargée de ce point de vue. Le premier, on peut dire, à tirer les premières cartouches, c'est Émile Durkheim lui-même. Puisque quand on prend ses textes concernant l'évolution pédagogique en France, 1938, qui sont issus d'une formation pédagogique qu'il a faite pour les enseignants de lycée au sein d'un cursus consacré à la science de l'éducation, Durkheim déploie un argumentaire dans l'introduction de son ouvrage, surtout, un ouvrage qui regroupe les 26 cours qu'il a fait. Et cet argumentaire est au service de la défense de la réforme de 1902, une réforme du curriculum qui a pour but d'introduire plus de sciences dans le cursus de formation des élèves et de rabaisser, entre guillemets, un petit peu les humanités. Donc, dans son cours sur l'enseignement en France, il est intéressant de voir que Durkheim établit un lien étroit entre l'évolution institutionnelle, l'histoire, la formation et les politiques d'éducation. Pour lui, le but de la formation est d'apporter aux futurs professeurs une culture pédagogique, leur permettant de faire de la prescription une réalité. La formule est intéressante. Pour lui, la pédagogie est là pour éviter la répétition, la routine, les habitudes ennemies du progrès, comme il le dit, et ce qu'il qualifie de misonéisme des enseignants. Voilà l'accusation adressée aux enseignants qui va revenir pendant un siècle, cette accusation d'être des adorateurs du passé et donc d'être coupables de misonéisme. Donc, dès l'origine, on peut dire que la science de l'éducation a pour mission, à partir d'un diagnostic sévère sur les pratiques enseignantes, décrites comme routinières, d'éviter plutôt que les professeurs ne tombent dans ces routines et qu'ils puissent, comme cela, grâce à la pédagogie, appliquer des prescriptions et viser à la formation des esprits, comme le dit Durkheim. Cependant, Durkheim voit bien qu'il y a un écart entre ce qui est demandé aux enseignants de faire et ce qu'ils font. Et la formation est conçue comme l'outil qui va permettre de combler l'écart. C'est grâce à la formation que les enseignants pourront construire ce que Durkheim appelle leur foi pédagogique au service de la culture secondaire dans sa totalité, comme il le dit. Donc, pour Durkheim, la distance qu'il y a entre le fait d'appliquer et le fait de faire, comme il le dit, intelligemment son travail, est censée être réduite par la formation et non dans l'activité elle-même. Donc, Durkheim et la sociologie de l'éducation, dès ses prémices, se place résolument du côté des politiques réformatrices et d'une volonté de transformer le travail des enseignants qui est pointé comme un obstacle aux réformes plutôt que de tenter de le comprendre. La situation ne va pas vraiment s'améliorer dans les périodes suivantes puisque dans la période des années 60-70, les enseignants sont mis en accusation de façon assez directe au nom de l'efficacité et également au nom d'une revendication d'égalité sociale et d'égalité des chances à l'école. Cette mise en question des enseignants, cette dénonciation de leur travail, ne va pas permettre là non plus qu'on s'intéresse vraiment au travail. Notons d'abord que le terme « enseignant » apparaît dans les années 70. Les études scientifiques sont cependant rares sur eux à cette époque-là. Et en France, les chercheurs vont se centrer dans les années 60-70 sur les effets sociaux de la scolarisation en adoptant une vision structurelle. Ainsi, ils vont se centrer aussi sur la question centrale, à qui sert l'éducation? Et il y a un glissement qui se fait progressivement de cette question à quoi et à qui sert l'éducation vers à qui profite l'éducation, selon la formule de Bourricot en 75. Les enseignants sont alors volontiers décrits au mieux comme aveugles, au pire comme complices, par la sociologie critique, d'un système qui est au service de la reproduction sociale. Et enfin, ils sont déjà volontiers dénoncés pour leur résistance au changement. Dans les années 80, une nouvelle situation arrive qui est en lien d'une part avec l'installation d'une crise économique de longue durée, avec un chômage de masse, avec l'intensification du travail et la précarisation du travail, et du côté de l'école, un souci d'une meilleure efficacité du système éducatif, sa décentralisation et la mise en place de dispositifs compensatoires par rapport aux inégalités. Tout cela se traduit par une volonté de rationaliser, de professionnaliser. Donc le terme de la notion, de le thème de la professionnalisation émerge à ce moment-là, première mention dans le rapport de Peretti en 1982 pour ce qui est des rapports institutionnels, dans le rapport Bancel en 1989, et c'est donc dans ce contexte qu'émerge la volonté de professionnaliser les enseignants qui est, vous le voyez, étroitement liée au souci de rationaliser le travail. Certaines réformes ont pour but de changer les pratiques des enseignants qui sont toujours perçues, du point de vue des décideurs et experts, comme trop individualistes, trop routinières et globalement inadaptées. Diverses réformes montrent les conditions d'exercice des enseignants, modifient les conditions d'exercice des enseignants, essentiellement dans trois directions. Tout d'abord, il y a une diversification des tâches, ne serait-ce que par l'introduction d'une logique de projet, par la multiplication des évaluations, par l'introduction de tâches liées à l'orientation notamment. Deuxième évolution, c'est une exigence plus grande d'autonomie des enseignants, tout en ayant la même exigence d'un respect plus important de la prescription, mais une prescription qui tend à devenir assez paradoxale, puisqu'on peut trouver des prescriptions à différents niveaux, qu'il s'agisse du niveau central ou des autres niveaux de l'éducation, de l'institution, également paradoxale parce qu'elle est faite à la fois de prescriptions extrêmement floues ou de prescriptions extrêmement précises et qu'il est difficile certainement pour les enseignants de s'y retrouver. Dans ce contexte-là, et en parallèle à ces réformes, le développement de la formation continue et la réorganisation de la formation initiale sont autant de moyens mis au service de l'accompagnement de ces réformes. Il faut noter que le thème du travail des enseignants apparaît dans les années 80, surtout à travers des témoignages et des recherches portant sur les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, notamment avec les travaux d'Elisabeth Bautier, vont être au centre de la réflexion sur le travail des enseignants. Avec l'avantage de rendre visible ce dont on parlait fort peu, sauf pour le dénoncer la plupart du temps, et l'inconvénient d'associer le fait de travailler uniquement à des zones difficiles, comme si les enseignants ne travaillaient que lorsqu'ils faisaient autre chose et autrement. Du côté de la formation continue, celle-ci est conçue comme un accompagnement des réformes. Elle est censée contribuer à faire évoluer les pratiques professionnelles qui sont là aussi décrites comme trop ancrées dans le disciplinaire, peu adaptées à un public qui n'a plus la même connivence culturelle. La nouvelle formation initiale témoigne d'un souci de rationalisation du travail enseignant en accompagnant l'extension des tâches qui leur sont prescrites. Ceci dit, il faut noter cependant qu'après une tentative pour assurer une part importante à une formation générale, la discipline d'enseignement reprend vite le dessus et reprend une place dominante dans les IUFM, soulignant par là une certaine conception du travail enseignant. La formation censée faciliter l'intégration d'une culture commune présente souvent plus l'idéal du travail que sa réalité. L'écart entre l'idéal et le réel fait rarement l'objet d'une réflexion. Et quant aux analyses de pratiques qui se développent à ce moment-là, qui sont mises en place, elles sont souvent référées à des modèles très hétérogènes et n'évitent pas toujours l'intention prescriptive et normative. Des auteurs insistent pourtant, comme Vincent Lang, sur le fait que la professionnalisation ne peut se faire sans la participation des acteurs. Au plan scientifique, il y a en France, l'intégration de nouvelles approches qui vont permettre un nouveau regard sur le travail enseignant et la professionnalisation. Les approches liées à l'interactionnisme ou à l'ethnométhodologie vont permettre de voir émerger, en même temps que la décentralisation, il ne faut pas l'oublier, la dimension locale, l'établissement, et par là même des aspects de l'activité des enseignants qui étaient fort peu étudiés jusque-là. Les recherches étudient et font émerger, montrent diverses logiques d'action qui rompent avec la vision structurelle précédente. Mais finalement, elle s'intéresse également assez peu au travail des enseignants lui-même. Elle s'intéresse plus au fonctionnement des établissements qu'au travail et à l'activité des enseignants. Il y a une convergence des travaux étudiant l'établissement et la classe. C'est l'époque où on parle beaucoup de l'effet établissement, du fonctionnement de l'établissement, de l'effet maître, des interactions maître-élève, de l'évolution de la composition du corps professoral. À ce moment-là, on peut se demander dans quelle mesure la professionnalisation n'a pas joué contre le travail enseignant. C'est une question que je me pose et que je vous pose. En effet, la question de la définition du travail des enseignants se pose en relation avec celle de leur professionnalisation et de l'organisation du travail. En France, l'image de l'enseignant et de son travail se diversifie en fait selon d'autres catégories. Alors, je vais vous faire l'économie de toute la littérature sur le sujet, mais on trouve des figures qui sont construites par divers chercheurs sur l'enseignant. On trouve à la fois le bricoleur, l'artisan, l'artiste, et autour de ces figures types de l'enseignant, il y a à chaque fois une conception de ce que devrait être leur travail. Il faut attendre 1985 et Lise de Mailly pour voir défendue une sociologie des pratiques pédagogiques. Et même en 1992, on peut voir que dans l'ouvrage de Marie Duru et Agnès Van Zanten, Sociologie de l'école, qui fait référence, la réflexion est centrée sur la scolarisation et la façon dont l'école produit des faits sociaux, mais le chapitre consacré à la profession enseignante, outre une sociologie classique des professions, n'aborde pas le travail enseignant, sauf à travers les compétences requises en relation entre les différents groupes d'acteurs. C'est Dubé et Martuccelli qui, les premiers, sans doute, mettent en avant la question des savoirs d'expérience, en faisant référence à Lortie, pour qui le métier de professeur a toujours été caractérisé par une grande indétermination des tâches. Pour Lortie, il est en effet plus proche d'un art, et pour Dubé et Martuccelli également, il est plus proche d'un art que d'une profession technique. Pour eux, le travail enseignant répond à des contraintes objectives, comme la nature des élèves, à des variables de personnalité, et ils affirment que le métier de professeur ne consiste nullement à appliquer les règles et les normes d'un statut, car ce rôle ne permet pas de faire la classe. Voilà qui est assez roboratif par rapport à une pensée dominante qui, au contraire, soulignait le fait que le problème était qu'il y avait une mauvaise application de la règle. Donc, au mot de retour, on peut assister également à cette époque-là à une irruption ou au retour du thème du métier, avec la prise en compte donc d'un décalage entre le prescrit et le réel, qui vient d'ailleurs que de la sociologie de l'éducation, comme je le montrerai ensuite. Ce qui me semble important, c'est que dans cette période, donc dans les années 80-90, on peut dire que l'ère du soupçon continue, mais il est teinté d'un peu de commisération à l'égard des professions, d'une profession dont les conditions de travail sont perçues tout de même comme difficiles et les tâches plus complexes, surtout dans les quartiers populaires, à forte présence d'élèves issus de l'immigration. Mais surtout, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est l'unicité du travail enseignant qui est battue en brèche. Effectivement, le contexte produit des différences. Et c'est en fait d'ailleurs qu'est venue la préoccupation de l'activité et du travail. Le travail est en effet construit en objet de recherche dans d'autres champs que celui de l'éducation et dans le cadre de la formation professionnelle, avec les travaux de Pastret particulièrement. Et ce travail sur le travail, on peut le dire, de construction de le travail en objet, est caractérisé par une pluralité de théories qui tentent de rendre compte de ce que De Jour appelle l'énigme du travail. On passe d'une posture où on sait ce que doit être le bon travail à une posture où on considère que le travail est énigmatique et qu'il faut d'abord essayer de le comprendre avant de vouloir le transformer. C'est aussi dans ce moment-là qu'il y a des débats publics qui portent sur la nature du travail, la fin du travail, qui s'opposant à ceux qui revendiquent au contraire la centralité du travail. Plusieurs approches permettent de modifier la compréhension du travail, le sortant de l'évidence en adoptant, selon une démarche clinique le plus souvent, le point de vue de ceux qui travaillent. Et là aussi, il y a une transformation importante, c'est que ce n'est plus une position de surplomb sur le travail, mais ça va être une recherche du côté des acteurs en adoptant le point de vue de ceux qui travaillent. Donc, je passe rapidement sur tous les apports de l'ergonomie de langue française, de la psychodynamique du travail ou de la perspective historico-développementale développée par Clos, ainsi que des sciences cognitives sur l'analyse de la tâche. Ce qui me semble pouvoir être retiré de tous ces courants qui ont permis de faire du travail un objet pensé autrement que comme une simple application de consignes, c'est que cela permet de retirer un certain nombre de points, dont, premier point, le fait que le travail a une dimension à la fois singulière et sociale. Deuxième point, c'est l'aspect situé de l'action et le caractère situant de l'activité, comme le dit Philippe Astier, que je me permets de citer, quand il dit « l'activité croise la dynamique subjective qui s'enracine dans une culture avec la singularité d'une situation qui se définit pour une part en cours d'action et qui contribue à sa régulation ». Donc, aspect situé de l'action et caractère situant de l'activité. Troisième point qui me semble important dans l'apport de ces théories, c'est le fait que l'activité excède le réalisé, car l'une activité contient aussi ce qui n'a pas été fait. Quatrième élément, la construction de normes en relation avec les situations de travail au sein de collectifs de travail qui à la fois intègrent les règles de travail, des règles qui ont été construites historiquement, socialement, règles de travail qui assurent l'évolution, leur évolution, enfin ces collectifs assurent leur évolution grâce aux controverses sur le travail. Dernier point que je garderai de ces apports, c'est la conception de l'activité comme un développement et le fait qu'elle est adressée, selon la perspective vygotskienne, ce qui implique une attention particulière portée au langage dans et sur le travail. Au final, quand on regarde l'ensemble de ces travaux, même s'ils ont levé une partie du voile sur le travail, ce qui domine, c'est que le travail reste énigmatique, du fait notamment de sa part invisible et composite. C'est désormais l'homme au travail qui est central. Donc, dans les années 90, il y a une bascule qui s'opère, qui me semble tout à fait importante, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait eu complètement lieu encore dans l'éducation. Cette bascule fait que le centre d'intérêt devient désormais le fait que le travail, ça marche. Et de non pas s'intéresser seulement au dysfonctionnement et à la panne, comme je le disais tout à l'heure. Donc, puisque ça marche, on s'intéresse à comprendre pourquoi et comment ça marche. Deuxième bascule, c'est le travail routinier qui devient l'objet d'étude et pas seulement les dysfonctionnements, l'exception de l'innovation. Ou l'exception de l'innovation. Troisième bascule, ces approches permettent de sortir de l'ère du soupçon en réintégrant la part d'ingéniosité mise dans le travail, sans laquelle il n'existerait pas. Quatrième apport, la centralité du travail. Selon De Jour, il sait même dans le travail que s'expérimente la société. Cinquième apport, c'est la dimension anthropologique du travail. Travailler, c'est aussi, ce qu'on a oublié peut-être, participer à l'œuvre humaine et assurer par son travail non seulement ses propres besoins, mais aussi l'existence de tous. Sixième apport, la singularité du travail qui ne peut se comprendre qu'en contexte, ce qui va avoir des conséquences importantes sur le type de recherche menée sur le travail. Avant-dernier apport, la mise au premier rang de la question de l'organisation du travail et du facteur humain, selon d'autres conceptions que les conceptions managériales habituelles. Et enfin, un retour vers le métier qui permettrait d'articuler compétences, organisation du travail et situation. Tous ces apports, progressivement, nourrissent la réflexion dans les sciences de l'éducation, en sociologie de l'éducation également, et permettent d'avoir une réflexion sur ce qu'est la professionnalisation et comment on peut articuler professionnalisation et activité. Donc, pour conclure, je dirais que un des enjeux clés du travail des enseignants est la part d'autonomie indispensable à la qualité du travail. Part d'autonomie que les acteurs sauront construire et qui sera autorisée par l'institution. Cette autonomie est la condition de la construction de la professionnalité, comme le rappelle Vincent Lange. Mais en même temps, comme le constate Agnès Van Zanten, la professionnalisation a eu des orientations contradictoires. Elle a été aussi bien renforcée par le renforcement de la compétence et de l'autonomie des enseignants que par le fait de favoriser de nouvelles formes de supervision de leur travail. Dans un contexte européen où les politiques d'éducation, autant que les évolutions du public des élèves, provoquent une intensification du travail et une extension des tâches des enseignants, une complexification de leur travail qui n'a plus la classe pour seul horizon, la mise en avant de l'évaluation, de l'accountability, crée les conditions d'une certaine déprofessionnalisation, comme le montre Christian Marois. La logique instrumentale du geste technique prend le pas sur celle du geste professionnel. C'est peut-être le moment de prendre en considération le terme de professionnalité dans la mesure où il articule, ou il peut articuler en tous les cas, la dimension collective et individuelle, l'histoire du métier et la situation de travail, et ce que Marois appelle la dimension affective et éducative du métier. Une conception de la professionnalisation comme un processus de construction d'une telle professionnalité a fait récemment son apparition, notamment dans les travaux de Lenoir et Bouillet-Audot. Elle vient, rappelons-le, le terme même de professionnalité vient d'une traduction littérale de l'italien, la professionalità. Et cette notion, en récupérant l'italianisme, récupère aussi la charge sociale qu'elle avait, puisque pour la première fois, elle a été utilisée par les ouvriers de la Fiat, lorsqu'ils étaient en conflit au sein de leur entreprise et où ils revendiquaient que soit reconnue pas seulement la production mais aussi la professionnalità. Donc la notion de professionnalité, en réintégrant des dimensions souvent oubliées du travail, constitue peut-être une voie pour sortir d'une conception de la professionnalisation qui a oublié parfois le travail. D'autant plus que, à l'heure actuelle, une logique des métiers qui est présentée comme allant à l'encontre d'une logique de statut est entrée dans le discours public, si j'en crois le discours du président de la République il y a 2 jours. La notion de professionnalité qui renvoie aux luttes sociales et qui a mis l'accent sur le fait qu'elle est nourrie d'histoire et qu'il y a une importance du transfert intergénérationnel. Se professionnaliser devient alors, et là j'utilise une formule de Mainvielle, revient à suivre un chemin déjà emprunté par d'autres qu'il revient à chacun d'aménager en revenant sur ses propres traces. Avec mes propres lunettes de sociologue, je dirais qu'il y a une tension entre logique civique et logique industrielle qui se traduit actuellement par des résistances, par des souffrances. La professionnalisation autant que la déprofessionnalisation n'ont pas été jusqu'à présent des solutions pour améliorer la qualité du travail des enseignants quand les deux oublient le réel de l'activité.